Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi.
La mère et l'enfant n'ont pas encore été retrouvés. Il n'est cependant pas à exclure qu'elles aient pu quitter le territoire national.
Le procureur d'Épinal, ce midi, sur l'affaire Mia, après l'arrestation de quatre de ses kidnappeurs que la mère avait sollicité par Internet. Strasbourg ne financera pas la future mosquée, l'association turque renonce à sa demande de subvention. Des réouvertures à la mi-mai, Emmanuel Macron confirme l'objectif, mais sans promesse ferme. Pour les vaccins, le succès de l'ARN messager excite tous les laboratoires dans le monde entier. La forte reprise américaine dope les exportations françaises. Et puis nous évoquerons le souvenir de Christophe, le chanteur disparu il y a un an, célébré par la jeune scène française. Le 24 avril, dans 8 jours, sera la journée nationale internationale de commémoration du génocide arménien, une date fondamentale pour les Arméniens du monde entier. Michel Marian signe l'Arménie et les Arméniens en 100 questions. Il sera l'invité d'Europe Midi.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On en sait un peu plus sur les ravisseurs de Mia qui ont été interpellés. 4 individus connus des services de renseignement et présentés comme des militants de l'ultra-droite. Mais la petite fille et sa mère demeurent introuvables. Arthur Mbaché, vous êtes à Épinal où le procureur vient de s'exprimer.
Oui, la petite fille et sa mère sont introuvables. Et il y a même une demande d'entraide pénale internationale. Les enquêteurs craignent que la mère ait fui à l'étranger avec la petite Mia. Les enquêteurs qui n'ont plus aucun doute sur le fait que c'est elle, la mère, qui a contacté des kidnappeurs, qui a commandité l'enlèvement, vient de dire Nicolas Heitz, le procureur d'Épinal.
Lola Montemaggi les sollicitait, donc la maman, via Internet pour récupérer sa fille dont elle s'estimait injustement séparée dans le but de partir à l'étranger. L'opération avait été préparée conjointement et de façon minutieuse et précise. 3 des gardés à vue revendiquaient cette action qu'ils qualifiaient, je cite, d'extraction et d'exfiltration. Le premier, un homme de 58 ans, estimait avoir permis à une petite fille de retrouver sa mère en agissant à la Arsène Lupin.
Voilà, à la Arsène Lupin. Il y a donc 4 hommes en garde à vue, dont les 3 kidnappeurs de mardi matin. La plaque d'immatriculation d'une de leurs voitures a été relevée par un témoin ici dans les Vosges. Or, cette plaque est enregistrée dans les bases des services de renseignement, la DGSI. Il faisait même l'objet d'une enquête du parquet national antiterroriste. C'est comme ça qu'ils ont été logés, repérés et donc arrêtés. Chez l'un d'eux a été retrouvé le script, le texte à dire à la grand-mère de Mia pour obtenir sa confiance en se faisant passer, on le sait, pour des agents de la protection judiciaire de la jeunesse et donc repartir sans violence avec l'enfant.
Arthur Mbaché en direct d'Épinal pour Europe 1. Autre nouvelle de la matinée, ce rebondissement dans l'affaire de la mosquée de Strasbourg. Elle ne sera pas subventionnée par la ville. Miligorus, l'association d'origine turque qui porte le projet, a décidé d'elle-même de renoncer à la subvention municipale qui avait provoqué une épreuve de force entre la mairie écolo et le gouvernement. Mélina Facha, vous êtes à Strasbourg.
Oui, la maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, l'a annoncé. Elle ne versera pas les 2,5 millions d'euros de subventions prévues à la mosquée Eyyub Sultan. Et ce n'est pas elle qui a changé d'avis, dit-elle, mais l'association Miligorus à la tête du lieu de culte.
Ce qui a le plus changé, c'est en fait le refus des collectivités région Grand Est et collectivités européennes d'Alsace de financer le projet. De fait, ça déséquilibrait le plan de financement. Et donc, l'association m'a adressé hier un courrier me disant qu'à ce stade, ils retiraient leur demande de subvention.
On ne sait pas encore si cela remet en cause la suite des travaux de la mosquée. Miligorus va certainement devoir trouver d'autres financements. En attendant, cela enlève une épine du pied de Jeanne Barzéguian qui regrette toute cette polémique, les critiques du gouvernement, même si elle n'estime n'avoir fait aucune erreur politique. Pour éviter toutefois de nouveaux dossiers du genre, elle veut retravailler d'ici la fin de l'année les critères d'attribution des subventions de la ville.
Mélina Fachin à Strasbourg. La crise sanitaire alors que l'épidémie se stabilise à un niveau élevé. 30 000 malades du Covid dans les hôpitaux, 5 900 en réanimation et encore 300 morts hier. Emmanuel Macron maintient l'objectif de faire redémarrer quelques activités à la mi-mai. Une perspective, Jean-Rémy Baudeau, mais pas de promesse ferme.
Patrick, surtout ne pas trop s'avancer, ne pas être pris au piège de promesses impossibles à tenir quand en réalité c'est le virus qui dicte le calendrier. Mais tout de même, un contexte. Hier devant les maires, Emmanuel Macron a précisé que les hospitalisations devraient encore progresser jusqu'à la fin du mois. La tension restera ainsi très forte. Mais ça n'empêche pas l'exécutif d'esquisser des dates, je vais vous les donner dans l'ordre. Les écoles et les crèches devraient bien reprendre au 26 avril, une semaine avant les collèges et les lycées. L'étape suivante, Emmanuel Macron en a parlé aux maires, il a maintenu cet objectif du 15 mai pour les terrasses et les musées, une échéance qui pourrait aussi concerner les commerces. L'exécutif laisse entendre qu'il pourrait y avoir en fait des réouvertures différenciées selon les territoires. La suite, ce sera un calendrier de réouverture par étape toutes les trois semaines. Un calendrier qui sera fonction du déploiement de la stratégie vaccinale, précise ce matin l'Élysée. On notera que ce sont effectivement donc les maires rencontrés par le président qui ont fait fuiter ce calendrier, une version officieuse des plans du président, car pour la parole officielle, il faudra encore attendre un peu. Là encore, Emmanuel Macron entretient le flou pour ne pas trop s'engager. Son entourage laisse entendre qu'il s'adressera aux Français d'ici à la fin du mois.
Côté vaccin, la campagne a pris son envol. 472 000 injections réalisées hier. Près de 12 millions de personnes ont maintenant reçu au moins une première dose. Mais vaccination suspendue pendant 3 jours à Berck, dans le Pas-de-Calais, à cause d'une attaque informatique. Pas de rendez-vous déprogrammé. Les créneaux n'avaient pas été ouverts. Mais la fondation Opal, qui gère une quinzaine d'établissements dans les Hauts-de-France, prend le temps de faire le bilan de cette intrusion dans son système. Nouvelle cyberattaque visant le secteur hospitalier. Début de campagne qui a consacré la suprématie des vaccins à ARN messager, les Pfizer et Moderna. Il est probable que l'Europe ne passe pas de nouvelles commandes d'AstraZeneca, a d'ailleurs indiqué ce matin la ministre Pannier-Runacher. Dans le monde entier, chez la plupart des labos, c'est maintenant la course à l'ARN, les projets et les essais se multiplient, Victor Delande.
Oui, les succès de Pfizer et Moderna ont donné des idées à leurs concurrents. Le prochain, ce sera le laboratoire allemand CureVac, avec un vaccin disponible dès le mois de mai. Et la liste est loin d'être terminée. Pas moins d'une douzaine d'autres labos sont dans les starting blocks. Le français Sanofi a lancé des essais de clinique phase 1 et 2 avec une biotech américaine en mars dernier. Le vaccin pourrait être disponible courant 2022. Des essais également lancés par des labos chinois, japonais ou indiens. En fait, la réussite de Pfizer et Moderna a totalement dopé la recherche sur les vaccins ARN messagers, selon Bernard Verrier, directeur de recherche CNRS à l'Institut de biologie et de chimie des protéines.
Ça libère vraiment à la fois les innovations, les budgets, les finances. Et il y a un mouvement de fond qui se déclenche sur la vaccination ARN et ça va débloquer d'autres pathologies, les vaccins contre le sida, les vaccins contre le cancer. C'est clair que ça suscite énormément d'enthousiasme.
Et cette technologie n'en est qu'à ses débuts, selon les scientifiques. Rappelez-vous, en décembre dernier, il fallait stocker les vaccins Pfizer dans des supercongélateurs à moins 80 degrés. On sait maintenant les conserver à moins 20 et dans quelques mois, on devrait pouvoir les garder à température ambiante. Et surtout, plus de labos pour développer des vaccins ARN messagers. Ça veut dire aussi beaucoup plus de doses disponibles dans les années à venir.
Avec des injections appelées à se renouveler, le patron de Pfizer évoque ce matin dans Les Échos des vaccinations régulière comme celle de la grippe.
Oui, comme cela avait déjà été évoqué par des spécialistes de la vaccination, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, confirme qu'il faudra sans doute une troisième dose entre 6 mois à 1 an après la première injection et à partir de là, il y aura une vaccination à nouveau chaque année. Mais tout cela doit être confirmé par des études sur la durée de l'immunité parce que pour le moment, on n'a que 6 mois de recul sur les premières personnes vaccinées avec le sérum Pfizer.
Merci Victor Delande. Nouveau coup de froid entre les magistrats et le gouvernement. À l'instant, le Conseil supérieur de la magistrature indique qu'il refuse d'enquêter sur d'éventuels manquements déontologiques du vice-procureur du parquet national financier, Patrice Amar. Comme le lui avait pourtant demandé le Premier ministre Jean Castex, le Conseil supérieur estime que le Premier ministre ne lui dénonce pas de faits motivant des poursuites disciplinaires et qu'il n'entre donc pas dans ses attributions d'investiguer sur ce magistrat.
Europe Midi, Patrick Cohen.
La suite dans un instant, la reprise spectaculaire de l'économie américaine qui profite déjà à la France et les 100 ans de la vache qui rit.
Europe Midi. Patrick Cohen.
La bourse de New York a encore battu des records hier soir après une série d'indicateurs inespérés. Un chômage au plus bas depuis le début de la crise et des ventes au détail en hausse de près de 10% en mars. Les États-Unis voient les prémices d'un mini-boom économique, une forte reprise qui profite déjà à nos exportations, d'abord celle des vins et spiritueux avec les bars et restaurants qui commencent à rouvrir. Louis Derangère, lui, dirige une société qui fournit des machines de conditionnement à l'industrie américaine.
Depuis début janvier, on a énormément de demandes de la part des États-Unis. On le voit au travers des projets. Les projets sont beaucoup plus concrets et même nos interlocuteurs, ils sont très positifs. On voit qu'avec l'arrivée des vaccins et peut-être des plans de relance qui se profilent, ils veulent croire en la reprise de l'économie mondiale et donc ils veulent participer, ils veulent que leur industrie soit prête à repartir pour pouvoir produire et livrer dans le monde entier. Ils ont besoin de s'équiper, surtout après une période où il y a eu peu d'investissements pendant l'année 2020 parce que la croissance était incertaine, la situation mondiale était incertaine. Donc ils investissent massivement et ils se tournent vers les entreprises américaines, bien sûr, mais aussi européennes pour avoir ces technologies performantes et de qualité.
Le directeur de Mom Packaging, propos recueilli par Carole Ferry. Le journaliste Darius Rochebain, mis hors de cause par une enquête suisse. L'enquête ne permet pas de conclure à des actes relevant de harcèlement ou d'une infraction pénale, dit un communiqué de la radio-télévision suisse. Darius Rochebain avait été suspendu d'antenne par LCI fin octobre après les révélations du quotidien Le Temps pour des paroles et des actes déplacés lorsqu'il officiait dans son pays. Un chef d'orchestre star annoncé à l'Opéra de Paris, Gustavo Dudamel, est nommé directeur musical. Il prendra ses fonctions en août pour un mandat de 6 ans, tout en continuant de diriger l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles. Vénézuélien de 40 ans, Dudamel est devenu le plus prestigieux maestro de sa génération. Il sera l'invité d'Isabelle Millet tout à l'heure, ce soir dans Europe Soir. Christophe, le chanteur Christophe, est mort il y a tout juste 1 an. Il a été l'un des grands disparus du premier confinement. Ses chansons ont soudain envahi nos rues. Christophe, repris, célébré depuis par les jeunes chanteurs de la nouvelle scène, Angèle Châtelier.
Oui, beaucoup d'artistes que j'ai pu rencontrer m'ont parlé de Christophe, comme quoi sa musique les influence considérablement. Et ça, le chanteur Hervé, révélation masculine aux dernières victoires de la musique, m'explique pourquoi Christophe était un véritable technicien du son.
Il y a un truc chez Christophe qui est hyper rare, c'est le populaire le plus élégant, quoi. Moi, j'ai eu la chance de passer du temps avec lui. C'est un amoureux du son. Le son, il disait toujours ça. Il écoutait vraiment absolument tout le temps. Les derniers trucs qui sortaient. Et je pense que c'est ça qui l'a fait rester dans l'air du temps. Il est plus vivant que jamais parce que le son de synthé, il est noble. Il sera toujours noble.
Ils l'ont tant cherché. La nuit a te remplacé.
Christophe influence tant les artistes de la nouvelle scène qu'il se réapproprie ses plus grands tubes. Écoutez par exemple le groupe d'électropop Thérapie Taxi et leur reprise d'Aline.
J'ai crié. J'ai crié Aline pour qu'elle revienne et j'ai pleuré, oh, j'avais trop de peine.
Il y a aussi Johan Papa Constantino qui à 29 ans cumule des millions d'écoutes sur sa reprise plus dansante, disons-le, des mots bleus. Patrick preuve que Christophe a toujours été curieux de tout ce qu'il se passe musicalement. Il y a encore 2 ans, il s'entourait des nouveaux artistes à succès. Arthur Teboul du groupe Feu Chatterton, Juliette Armanet ou encore Jeanne Haddad sur sa chanson La petite fille du troisième.
Je vois tout, j'entends tout.
Merci beaucoup Angèle Châtelier. Restez avec nous, on va célébrer un autre anniversaire. Le 16 avril 1921, Léon Bell déposait au tribunal de Lons-le-Saunier dans le Jura le nom d'un fromage fondu en portions dont le destin allait être fabuleux, la vache qui rit, qui a donc 100 ans aujourd'hui, centenaire fêté à Lons-le-Saunier, où se trouve toujours l'usine mère de la marque, vendue dans 136 pays. La vache arbore toujours des boucles d'oreilles en forme de boîte à fromage à son effigie, dessinée à l'époque par Benjamin Rabier, qui était un camarade de guerre de Léon Bell. Donc presque rien n'a changé en 100 ans, assis quand même la publicité.
Si mesdames nous donnent du bon fromage, qu'on nous vend partout en tout petit morceau, oh, oh, c'est la vache qui rit, c'est la vache qui rit, pour la plus grande joie de tout le pays.
Publicité radio de la vache qui rit du début des années 30.
Quelle Madeleine de Proust, la vache qui rit, c'était le goûter, hein. C'était
le
goûter, la vache qui rit.
Elle en rit encore. Le temps, Anissa Dadi, le ciel se couvre.
Oui, cet après-midi, Patrick, après une matinée très ensoleillée, en effet, sur la moitié nord, les nuages sont en train d'arriver. Donc, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace, en passant par la région parisienne, on va avoir une après-midi qui sera partagée entre nuages et quelques éclaircies. Le long de la façade atlantique, c'est toujours là qui fait le plus beau, avec un soleil qui résiste bien. En fait, c'est sur le grand quart sud-est que le temps sera le plus agité. du Massif central jusqu'aux Alpes, en passant par la vallée du Rhône, la Provence et jusqu'en Corse, et bien dans toutes ces régions. Cet après-midi, pensez à votre parapluie, il y aura des averses. Elles seront assez fréquentes. Il va neiger sur les reliefs à partir de 800 mètres. Et sur la Côte d'Azur, nous attendons même quelques coups de tonnerre cet après-midi. Les températures, elles sont stationnaires, ça ne bouge pas, toujours en dessous des normales de saison, avec 9 degrés à Clermont-Ferrand, 10 à Belfort, 12 à Paris, Lyon et Limoges, 13 pour Brest, 15 à Nice et Bordeaux et 17 la maximale pour Ajaccio. Ce week-end, le thermomètre va très légèrement grimper.
Merci beaucoup Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.